Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Nous parlons droits des travailleurs ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Des droits qui sont en chute libre. Le mot effondrement est même évoqué. Voilà ce que l'on peut lire dans l'enquête annuelle menée par la Confédération syndicale internationale, enquête menée dans 151 pays. Le constat effectivement est alarmant. Droits de grève violés dans 87% des pays étudiés. Droits de négociation collective également violés, là, dans 80% des pays. Notre question ce soir, à rebours de l'évolution, est-ce que les travailleurs sont de moins en moins protégés dans le monde? Comment expliquer de telles situations? Comment le droit peut-il s'adapter aux nouvelles formes de travail? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio tous trois, Caroline Diard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé au département droit des affaires et management DRH à la Toulouse Business School. Face à vous, Emmanuel Lavignac, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens, CGT. Martin Denis, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité également en studio à mes côtés, conseiller politique au TUAC, qui est une commission syndicale consultative auprès de l'OCDE. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors première question, ben justement Martin Denis, quand on parle droit des travailleurs dans le monde, c'est assez vaste. Quels sont les droits des travailleurs? Est-ce qu'il y a une ou des législations internationales qui régissent ces droits-là?
Absolument. Il y a des normes internationales du travail qui existent, qui sont adoptées par l'ensemble des États du monde, les 187 États de l'Organisation internationale du travail, qui est la principale organisation des Nations unies en charge des questions de travail. Et ces normes sont adoptées par les États membres, mais également par les représentants de salariés, les syndicats et les représentants d'employeurs. Il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus de 200 normes contraignantes, des traités internationaux que les États ratifient et sont ensuite tenus de mettre en œuvre. On a, à travers le temps, identifié un certain nombre de normes qui sont désormais érigées comme des normes fondamentales. Ce sont les normes, les traités internationaux sur l'élimination du travail des enfants, du travail forcé, la non-discrimination et l'égalité femmes-hommes. Et bien sûr, le droit de négociation collective et le droit à la liberté syndicale, qui sont considérés comme des normes fondamentales, ainsi que le droit à un environnement de travail sain et sûr. L'enjeu aujourd'hui pour l'OIT et pour les normes internationales du travail, c'est leur effectivité, leur mise en œuvre. C'est le grand défi auquel font face les travailleurs dans le monde à l'heure actuelle. L'OIT est une machine magnifique, unique au niveau international, mais qui fait face à des difficultés d'ordre politique, géopolitique. Et sur le terrain, effectivement, les travailleurs font face à un recul massif, considérable des droits du travail.
On va l'évoquer, mais d'abord, il y a un mot qui est important, c'est informel. Est-ce que quand on parle droit du travail, il ne faut pas parler droit du travail aussi d'abord le travail informel? Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur la planète, ce travail informel?
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. À l'heure actuelle, les travailleurs dans l'économie informelle représentent à peu près 60% des travailleurs à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que le contrat de travail, en réalité, est une exception à l'échelle mondiale.
Il y a plus de gens qui travaillent au noir, entre guillemets, que de gens qui sont déclarés et qui ont les droits qui vont avec, ou qui sont censés aller avec.
Tout à fait. Alors, c'est principalement en Amérique latine, en Afrique et en Asie, mais ça reste un phénomène très généralisé et très divers. Ce sont des travailleurs qui sont parfois dans l'agriculture, parfois dans des petites unités économiques, pas forcément des travailleurs seuls, indépendants, mais qui parfois font partie même d'unités, dans le secteur public également et dans le secteur privé, et des travailleurs qui contribuent aux chaînes de valeur mondiale, aux chaînes d'approvisionnement et à la fourniture de biens de consommation ou de services qui arrivent ensuite sur nos marchés en Europe ou dans le monde occidental.
Ils sont évidemment indispensables, mais c'est un travail informel. Est-ce que ça progresse, le travail informel dans le monde? Quand vous dites qu'il y a plus de travail informel que de travail.
Alors, on est sur un plateau en matière de réduction de l'informalité. Après les années 80-90, où il y a eu une forte réduction de l'informalité, notamment en Amérique latine, à la suite de politiques volontaristes d'un certain nombre d'États d'Amérique latine. L'une des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que désormais, à peu près un travailleur sur deux au niveau mondial a accès à une forme de protection sociale, car qui dit informalité dit accès à aucune forme de protection sociale face au chômage, face à la maladie, face au grand âge, à la vieillesse. Un certain nombre de progrès ont lieu à l'heure actuelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate une paupérisation des travailleurs, notamment principalement des travailleurs de l'économie informelle, qui s'allie à un recul sur les droits qui est lié à une volonté politique de réprimer l'action syndicale et tout simplement de déréguler le droit du travail qui est aujourd'hui encore et de plus en plus perçu comme un obstacle à la croissance économique et au développement développement économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans les pays en voie de développement, comme malheureusement aujourd'hui dans les pays dits développés.
Et ça, c'est intéressant. Effectivement, normes versus productivité, c'est un enjeu évidemment du débat de ce soir. Mais Caroline Diard, c'est intéressant parce que quand on parle travail informel, on comprend que finalement, il n'y a pas un, mais des formes de travail dans le monde. Est-ce qu'il y a autant de formes de travail dans le monde que de cultures dans le monde ? À quel point est-ce que ces deux concepts sont intimement liés ?
Alors effectivement, le travail, c'est un concept juridique. Vous l'avez évoqué, il y a un contrat de travail, donc il y a un lien de subordination. C'est comme ça qu'on l'entend, en tout cas au sens du code du travail. Et quand on pense aussi travail, on pense aussi sociologie et culture du travail et également conditions de travail. Et c'est ça aussi peut-être qui nous interpelle ce soir, c'est comment les travailleurs dans le monde sont-ils traités par des employeurs. Des employeurs qui sont des employeurs locaux ou qui peuvent être aussi des employeurs français. Et c'est là où il faut aussi s'interroger sur notre responsabilité, responsabilité juridique, mais également responsabilité morale. Donc on est à la fois sur le terrain juridique, légal, et sur le terrain de l'éthique dans notre sujet. Alors vous avez évoqué le travail informel. Le travail informel, c'est le travail dissimulé. Donc le travail dissimulé, il est codifié en France dans le Code du travail, et notamment à travers une obligation à la fois de vigilance et de diligence. C'est-à-dire qu'un employeur français est censé respecter ce code du travail. Ce n'est pas Emmanuel Lavignac qui me contredira, je pense, sur ce point.
Non, c'est sûr.
Et doit être vigilant et diligent et ne pas recourir à du travail dissimulé.
Parce qu'en France, il y a beaucoup de travail dissimulé. Enfin, quand on pense travail informel, évidemment, on se dit que la France est peut-être un des pays les mieux dotés en termes de droit du travail. On n'y est peut-être pas. Mais en tout cas, on est loin de vous évoquer ce qui peut être observé en Afrique ou en Asie.
Alors, non seulement on a du travail dissimulé, mais on a aussi l'emploi irrégulier d'étrangers sans titre de travail en France. Donc, il y a des chiffres qui régulièrement sont publiés sur ce thème-là et qui font état, effectivement, de comportements déviants de la part des employeurs. Et alors, ces obligations, elles existent dans le Code du travail. On voit bien qu'elles ne sont pas forcément respectées. Il y a une forme de travail informel, mais j'irai peut-être plus loin en parlant de travail invisible et de travailleurs invisibles. Et ces travailleurs invisibles, ça peut être des travailleurs sans papier, ça peut être également des personnes qui ne sont pas déclarées mais qui ont des papiers, donc du travail dissimulé. Et ça peut être aussi les travailleurs des plateformes qui finalement ne sont pas forcément en première ligne d'une visibilité du grand public. Donc c'est un sujet qui est un sujet national, un sujet international sur lequel on a essayé de légiférer avec la notion de devoir de vigilance pour essayer d'encadrer ce qui se passe quand on emploie des collaborateurs dans des filiales ou chez des sous-traitants. Donc la responsabilité du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage qui existait depuis longtemps dans le Code du travail, on a essayé de l'élargir pour protéger les travailleurs. Mais on voit qu'il y a une espèce de rétropédalage récemment avec les déclarations du président Macron lors de la conférence Choose France qui dit effectivement qu'il serait envisager de ne pas transposer la directive européenne
Il y a pas que la France,
en droit français et également les travaux omnibus qui décalent l'application de cette directive qui était supposée intervenir en 2026, si je ne m'abuse, et qui finalement serait décalé en 2027. Donc tout ça questionne ce travail informel, ce travail dissimulé.
Emmanuel Lavignac, qu'est-ce que ça signifie effectivement la France ? Alors je disais, il y a d'autres pays aussi qui souhaitent le retrait de la directive européenne sur le devoir de vigilance. Donc cette directive, en gros, elle demande aux entreprises importantes de l'Union européenne d'avoir un plan de réduction des risques relatif aux droits fondamentaux des travailleurs. Ça reprend ce que Martin Denis a commencé à évoquer, c'est-à-dire qu'en fait, on se débarrasse des normes. Pourtant, il y a des... Et on va évoquer les nouvelles formes de travail. Vous avez évoqué ces travailleurs invisibles, Caroline Diard. On se débarrasse des normes parce qu'il y a trop un enjeu de productivité. Aujourd'hui, on est face à une crise. Et ça, c'est au détriment du travailleur ?
Alors, tout à fait. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, en France, on n'a pas les mêmes conditions de travail ou le même effondrement des droits que dans sur le reste de la planète. Mais quoi qu'il en soit, on vit un recul en profondeur depuis déjà à peu près 2016-2017. Je dirais depuis la loi travail qui a été mise en place par le gouvernement Hollande, où on a inversé la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la possibilité de négocier au niveau de votre entreprise vos conditions de travail, sachant que on a de moins en moins de représentants syndicaux dans ces entreprises. Donc en fait, ça met un rapport de force qui est aux dépens du travailleur. Donc déjà, on a ça. On a après 2017 les ordonnances Macron qui ont rendu plus compliquées non seulement les négociations, mais aussi par rapport au prud'homme, où en fait aujourd'hui vous avez un barème prud'homal qui fait que lorsque vous subissez un licenciement abusif, vous êtes beaucoup moins indemnisé qu'avant. On a des lenteurs au niveau prud'homal pour avoir gain de cause. Donc en fait, les travailleurs vont de moins en moins en plus vers la justice. Ouais. Il y a une précarité. On parle de travail dissimulé, mais le travail dissimulé, je répète, il est quand même interdit en France, hein, donc c'est quand même assez clair. En revanche, il y a une volonté de précariser les contrats. Donc on est toujours majoritairement en France en CDI, mais le nombre de CDD, contrats durée déterminée, en France, et notamment quand vous commencez à travailler, à rentrer dans le monde du travail jeune, vous commencez à avoir un CDI en moyenne à peu près vers l'âge de 30 ans. Donc il y a une précarité, il y a une mise sous tension du travail.
Et ça, c'est uniquement en France ? Est-ce que ça s'observe ? Est-ce que la précarisation, elle est internationale aujourd'hui ?
Elle est en tout cas européenne, oui. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe clairement en France, parce que le droit du travail, le code du travail français était très protecteur. Et effectivement, on le détricote depuis plusieurs, maintenant, mois et décennies, on va dire, depuis 30 ou 40.
Alors qu'il devrait évoluer, encore une fois, face aux nouvelles formes de travail. C'est le paradoxe.
Alors, non seulement il devrait évoluer, pourquoi ? Parce qu'on subit une tension géopolitique beaucoup très très importante, avec la mondialisation et la globalisation et la concurrence exacerbée, le monde du travail est mis sous tension en permanence. Et donc les travailleurs sont devenus la variable d'ajustement. En gros, on baisse les salaires, on enlève certains droits, comme ça, plus facilement, on peut en gros baisser les prix et de la production. Je rappelle quand même qu'a été voté le 6 juin, vendredi, là, par le Parlement, la loi contre la réforme pour l'abrogation de la réforme des retraites, soit 2 ans après l'avoir demandé, puisque les travailleurs se sont massivement mobilisés. Il y a à peu près 3 millions de travailleurs qui ont défilé contre cette réforme des retraites. Et donc, c'est bien un droit des travailleurs qui a été repoussé, parce que la retraite, c'est aussi un droit du travail. C'est aussi un droit des travailleurs. Ouais. Et on vient juste de la voter parce que le reste avait été passé en 49-3. Donc, c'est pour vous dire le recul sur les droits sociaux, il est clairement là. Un deuxième symptôme, c'est la répression syndicale. Qui est de plus en plus importante. Ouais. La CGT a envoyé un courrier à la ministre Elisabeth Borne en 2023, justement pour se plaindre de la répression syndicale. On a eu plus de 1000 représentants syndicaux qui ont été poursuivis par la justice suite à la réforme des retraites. On se rappelle aussi de la répression des Gilets jaunes, on se rappelle d'une augmentation de la répression.
Parce qu'effectivement, je vais en écho à ce que vous dites. La Confédération syndicale internationale, elle dénonce, et ça complète votre propos, des atteintes à l'encontre de responsables syndicaux. Et elle affirme avoir recensé plus de 1000, vous parlez au niveau français, mais plus de 1000 dirigeants syndicaux et membres de la Confédération générale du travail, donc la CGT, qui ont fait objet de poursuites au pénal, de mesures disciplinaires pour le rôle qu'ils ont joué dans les manifestations de masse contre la réforme des retraites. Ça, c'est la France.
Tout à fait. Je ne dirais pas mieux que vous, effectivement. Et ça, ce sont des faits, c'est une réalité.
Au niveau des 151 pays recensés par la Confédération syndicale internationale, 80% ont violé le droit de négociation collective.
Tout à fait.
Mais pourquoi ?
Alors, pourquoi ? On voit bien, on assiste à une radicalisation, en fait, du capitalisme, de l'économie de marché, qui est à bout de souffle, qui a du mal à faire de la productivité, je le répète, qui croule sous une concurrence qu'elle a mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, le monde du travail, il est la variable d'ajustement, c'est-à-dire on baisse les salaires pour faire plus de profit, puisque c'est quand même la base, la règle du capitalisme. Et comme on n'arrive pas à finalement être suffisamment concurrentiel et augmenter les prix sans baisser la masse salariale, on est sorti, si vous voulez, d'un système qu'on appelait fordiste dans les années 70, où on tenait à ce que les travailleurs aient des salaires bien, qu'ils soient bien payés pour pouvoir bien travailler. Et on a après la Seconde Guerre mondiale, une augmentation des droits sociaux. Là, aujourd'hui, il y a une radicalité parce que tout simplement, j'ai envie de dire que la part de marché se réduit et qu'il y a une violence, une mise en place aussi géopolitique qui crée des tensions. Et donc, ça se joue maintenant sur le fait de réduire les droits sociaux.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela, Martin Denis ? Et en complément, je vais je vais citer encore une fois parce que c'est ce sur quoi on s'appuie dans ce débat, c'est cette enquête annuelle de la Confédération syndicale internationale, la 12e édition qui a été publiée il y a 8 jours. Il faut savoir que à chaque enquête, le syndicat attribue des notes sur le respect des droits des travailleurs, donc droits que vous avez évoqués en préambule de cette émission, Martin Denis, droit de faire grève, droit de manifester, droit de participer à des négociations. Il y a 7 pays du panel qui obtiennent la note maximale. On peut citer l'Allemagne, la Suède, la Norvège, par exemple. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, ils étaient 18. Donc ça a été plus que divisé par 2. Est-ce que, effectivement, ce n'est que la conséquence, en complément de ce que dit Emmanuel Lavignac, de société libérale aujourd'hui? Et est-ce que société libérale aujourd'hui veut dire recul des droits des travailleurs, point?
Alors, je souscris totalement à ce qui a été dit. Je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses. Il y a différents niveaux d'analyse. Il y a effectivement un niveau d'analyse politique avec une volonté effrénée de courir après la compétitivité ou la productivité. Et c'est une vision assez à courte vue, ou en tout cas à court terme, de la productivité. Et l'idée de maximiser des gains à court terme, c'est d'enlever tous les obstacles, ce qui serait perçu comme des obstacles à l'activité économique à très très court terme. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Le deuxième, il est à plus long terme, c'est effectivement l'accroissement des inégalités au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi inégal qu'avant. Les inégalités au sein des pays ont atteint un niveau historique, enfin, au moins depuis 50 ans, et les inégalités entre pays accroissent pour la première fois depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on retrouve une planète qui devient de plus en plus inégale entre les pays. Ça, c'est un premier niveau, j'allais dire, en termes macroéconomiques. Le deuxième niveau, c'est que le prix du travail par rapport au coût du capital n'a jamais été aussi bas. Et c'est-à-dire qu'on a une chute continue des salaires et du niveau de rémunération des travailleurs à l'échelle mondiale depuis plus de 50 ans dorénavant, qui induit une paupérisation du travail. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la majorité des gens qui sont dans l'extrême pauvreté aujourd'hui dans le monde ont un travail à temps plein. Ils travaillent. Donc le meilleur moyen pour s'assurer qu'ils soient sortis de la pauvreté, c'est de leur assurer des conditions de travail décentes. Et c'est ça, une notion clé à l'OIT, c'est la notion de travail décent qui induit d'avoir un salaire minimum vital, accès à la protection sociale et accès à un minimum de garanties et de droits fondamentaux dont je parlais tout à l'heure.
Le premier recul du droit du travail, finalement, c'est le fait que le travail ne paie plus.
C'est un recul majeur, c'est pas le seul, c'est un recul majeur. En tout cas, c'est une trappe à la pauvreté qui induit toute une forme de précarisation. Effectivement, les travailleurs qui sont dans la pauvreté sont contraints d'accepter des formes de travail moins protectrices et ne sont pas dans une position de négociation, pas dans une position de force pour négocier ensuite. Mais je voulais revenir sur ce qui était dit tout à l'heure sur la notion de renoncement dans le cadre de la loi Omnibus européenne et donc le retrait ou le démantèlement, le détricotage de cette directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales, qui est quand même un conquis social majeur des dernières années, qui a fait l'objet de négociations durant plusieurs, presque une dizaine d'années, avec la participation active des ONG, également des syndicats, de la Confédération européenne des syndicats. Je pense qu'en plus d'être un renoncement, c'est une erreur à la fois stratégique et politique. À l'heure où on discute beaucoup du non-alignement entre la Chine et les États-Unis, notamment en matière de commerce international, quelle est la vision que veut porter l'Europe? Quel type de normes veut-elle proposer? Est-elle non seulement une Europe qui protège ses consommateurs, ses citoyens, ses travailleurs, mais également une Europe qui se projette, c'est-à-dire qui propose un modèle de production économique, sociale, environnementale différent? Et je pense qu'en plus, c'est une attente d'une partie du monde économique, en tout cas des consommateurs, mais également des entreprises qui ont besoin d'un cadre réglementaire stable, visible, lisible. Donc je pense que c'est en plus de ça une erreur stratégique et qui va à nouveau enfermer les pays dans cette trappe à pauvreté. Car si on maintient les pays du Sud et les travailleurs du Sud dans des activités d'extraction à peu de valeur ajoutée, on ne sortira jamais de ce cycle néfaste de pays qui sont limités au bas de la chaîne de valeur et donc de travail très peu rémunéré et avec des mauvaises conditions de travail et des infrastructures et des services publics très peu développés.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Est-ce que les travailleurs dans le monde sont de moins en moins protégés? C'est la question qu'on pose ce soir après cette enquête annuelle de la Confédération syndicale internationale menée dans 151 pays et selon laquelle, dans 87% de ces pays, le droit de grève est violé. Dans 80% de ces pays, le droit de négociation collective est violé. Mes trois invités sont Martin Denis, que l'on entendait, qui est conseiller politique au TUAC, commission syndicale consultative auprès de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, Emmanuel Lavignac, secrétaire national de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT, et Caroline Diard, professeure associée au département droit des affaires et management DRH à la Toulouse Business School. On va essayer de tracer des perspectives d'avenir maintenant, parce qu'on a bien compris que finalement, les travailleurs sont de moins en moins protégés dans le monde, et c'est aussi une conséquence d'une société toujours plus inégalitaire, toujours plus libérale, c'est ce que vous nous dites. Mais dès lors, Caroline Diard, est-ce que on peut enrayer cette dynamique ? Parce qu'on a l'impression que quoi qu'il se passe, cette dynamique de recul des droits des travailleurs, elle se poursuit. Il y a eu le Covid, où on s'est dit, c'est bien, il y a une nouvelle forme de travail qui émerge, le télétravail. Et ça s'est accompagné d'une précarisation. Dès lors, comment est-ce qu'on peut enrayer cette dynamique ?
Alors, la dynamique d'un cercle qu'on peut qualifier de cercle vicieux, elle a été enclenchée, Emmanuel Lavignac l'a évoqué, il y a une petite dizaine d'années, avec la réforme du droit du travail et la libéralisation. Et cette libéralisation, finalement, elle a conduit à perturber le dialogue social et à réduire les droits des travailleurs. Alors, un autre angle d'analyse peut-être qu'on peut évoquer, c'est la notion de permacrise. On a l'impression qu'on est dans une crise permanente. Alors, vous l'avez dit, on a eu la crise Covid. La crise Covid, ça a développé le télétravail et le travail hybride. Et ça a donc permis aussi de révéler de nouvelles formes de travail avec la précarisation, les salariés des plateformes. Et finalement, cette crise permanente, elle a deux effets très pervers. Le premier effet pervers, c'est un effet qui est un effet psychologique, de chantage sur les travailleurs à qui, finalement, on laisse entendre que, étant donné que la crise est permanente, alors la crise, elle peut être politique, elle peut être économique, elle peut être sanitaire, et on a l'impression que depuis 5 ans, on est en permanence dans une crise.
Et par conséquent, on dit aux travailleurs quoi, ils ont de la chance d'avoir du travail, donc on va pas s'embêter à en plus l'encadrer, le droit du travail.
On leur laisse entendre finalement que les places sont chères et que peut-être il faudrait se taire et ne pas réclamer, ne pas porter un message syndical ou un message qui serait dans le sens de réclamer davantage de droits.
Mais c'est presque plus politique qu'économique, ça. C'est encore aussi, encore une fois, la balle est dans le camp des dirigeants, parce que la crise, elle est certes économique, mais ce sont aussi aux dirigeants de la gérer.
Alors, effectivement, mais peut-être
ça va dans le sens du libéralisme qu'on évoquait, j'entends.
À qui profite le crime, on va dire ? C'est-à-dire, à qui profite la crise ? Finalement, ça permet de créer une forme d'aliénation, de soumission des collaborateurs dans les entreprises qui vont ajuster leur comportement. Donc il y a des stratégies de coping, une stratégie d'évitement où on va se dire « oui, j'accepte un temps partiel subi, j'accepte d'être à distance même si je ne l'ai pas forcément choisi, et j'accepte aussi d'être en contrat de travail temporaire ou intérim ou CDD ». Et là, c'est un désastre pour le dialogue social parce qu'on le sait très bien, les salariés précaires sont les moins enclins à se syndiquer et à s'intéresser au dialogue social. Donc, vous voyez que les effets contextuels, qui sont des effets sociétaux finalement, sociaux, vont avoir un impact sur le dialogue social en entreprise et sur les conditions de travail des collaborateurs.
C'est un cercle vicieux, comme vous dites, mais Emmanuel Lavignac, donc ça reprend la question que je posais, on ne peut pas enrayer cette dynamique de recul des droits des travailleurs aujourd'hui ?
Si, bien sûr qu'on peut l'enrayer, mais par contre, il faut une volonté, une dynamique.
Politique ?
Politique, mais aussi portée par les citoyens, aussi portée, on parle de dialogue social.
Les entreprises ?
Les entreprises, moi je parlerai de démocratie sociale. Il faut à tout prix que les travailleurs et les travailleuses comprennent qu'ils doivent, au sein de leur lieu de travail, pouvoir obtenir des droits. Ils peuvent le faire si, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se syndiquer, il faut s'intéresser à la vie sociale, pas uniquement voter tous les 3 ou 4 ans, ou bien voter pour sa mairie, mais s'occuper aussi de ses droits dans son entreprise. Et en fait, cette culture citoyenne-là, en intérieur de l'entreprise, il faut la développer. C'est le seul moyen d'avoir un levier suffisamment puissant pour tout simplement convaincre ou contraindre, selon ce qu'on choisit comme verbe, l'employeur ou l'entreprise. Parce que c'est possible. Parce que sans les travailleurs, ce n'est pas possible. Le marché du travail, il est encore là. Il y a encore des gens qui font marcher la machine. Donc si ceux-là se décident à se réunir et à garder leurs droits en obtenir d'autres, c'est tout à fait possible.
Mais est-ce qu'évolution veut dire nouvelle menace ? Parce qu'on a dit, il y a 28 millions de personnes, par exemple, dans l'Union européenne qui travaillent pour via des plateformes numériques, et on a bien compris que le droit du travail est loin d'être acquis pour eux. Il y a l'intelligence artificielle qui se développe dans le travail. Est-ce que c'est source d'espoir ou énième menace ? Encore une fois, est-ce que l'évolution, elle va à rebours ? Normalement, l'évolution des époques fait que les droits, ça s'améliore. Est-ce que là, il se passe complètement le contraire et il ne va cesser de... Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il va cesser de poursuivre cela.
Non, alors... En dehors de la mobilisation, on va dire, citoyenne, et le fait de s'intéresser aussi et de se dire qu'on peut intervenir dans son entreprise pour obtenir des droits, bien évidemment qu'on a encore, heureusement, des leviers qui sont nationaux et surtout européens. Parce qu'on parle de la directive européenne, mais pour parler des salariés des plateformes, il y a une directive des plateformes qui doit être transposée en France en 2026. Elle permet... parce qu'elle met en place ce qu'on appelle la présomption de salariat. Elle permettra, ici, en France, à ce que les livreurs à vélo de Deliveroo, par exemple, puissent avoir un vrai contrat. Donc, en fait, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui se mettent en place. Mais ce qui est le plus inquiétant en France, c'est effectivement cette crise de citoyenneté, on va dire, ce recul des droits sociaux. Et c'est aussi par rapport... Parce qu'en France, on a eu un droit, un code du travail très, très important. Et on a l'impression que la volonté, là, en détricotant les directives, c'est de revenir sur notre propre droit à nous. Quand je parle de directive de plateforme qui va mettre en place la présomption de salariat, il faut savoir que le gouvernement français s'est opposé à ça, ce qui est hallucinant. La directive transparence salariale qui va aussi être transposée en 2026, la France a un code du travail par rapport à l'égalité femmes-hommes qui est très, très bien supérieur à d'autres pays européens. Eh bien, la directive transparence salariale, a priori, dans le projet de loi Omnibus, serait aussi, la France a demandé à ce qu'elle soit mise en place, mais moderato. Et enfin, le devoir de vigilance dont on parle, qui est la directive européenne...
Mais qui est menacée.
Qui est menacée. Il faut savoir que c'était dans le droit français. C'est déjà dans le droit français. Alors, effectivement, pas très, très, très appliqué. Mais quand même. Donc, en fait, c'est très curieux parce qu'on est porteur de plein de nouveautés ou en tout cas d'avancées législatives. Et là, tout d'un coup, il y a un coup de frein.
Il y a un coup de frein, clairement. Martin Denis, au niveau mondial, il y a quand même des raisons d'espérer. Je vais citer deux réformes évoquées par... Enfin, en tout cas, deux situations évoquées par la Confédération syndicale internationale. Le Mexique, il y a eu des réformes, mise en place de mécanismes de conciliation pour un meilleur accès à la justice du travail. L'Australie, des réformes qui contribuent à renforcer les droits syndicaux, ce sont des gouttes d'eau ?
Absolument pas, ce ne sont pas des gouttes d'eau, ce doivent être des phares qui doivent au contraire guider la mobilisation dans les autres pays. On fait effectivement face à des difficultés, à des défis qui sont considérables, mais il y a des initiatives positives ailleurs. Alors je ne dis pas que tout est rose, mais il y a des exemples positifs en Espagne également, où on a vu une loi sur la réduction du temps de travail, au Chili, des initiatives citoyennes qui associent les ONG, les syndicats, les associations de travailleurs des peuples autochtones par exemple. Donc il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui existent et dont il faut s'inspirer. Et puis il y a des mécanismes à l'échelle internationale qui existent. Au moment où on se parle, en ce moment même, à l'OIT, les 187 États membres de l'OIT et les syndicats et les employeurs sont en train de négocier la première norme internationale contraignante sur les plateformes, et justement sur la régulation de l'économie des plateformes et la protection des travailleurs des plateformes. Tout l'enjeu, lors de cette négociation, qui devra aboutir l'année prochaine à un traité international, c'est de s'assurer que ça sera pour un mieux disant social et un mieux disant pour les travailleurs. C'est tout l'enjeu de cette négociation. Et je rejoins ce qu'a dit Emmanuel Lavignac. Il n'y a pas de raccourci pour rééquilibrer le rapport de force économique vis-à-vis du monde de l'entreprise, etc. La syndicalisation, l'engagement dans le monde syndical, il n'y a pas de raccourci. C'est effectivement la solution prouvée pour assurer des meilleures conditions de travail et un meilleur salaire.
Et malgré tous les attaques syndicales qui se multiplient, on l'a bien dit, mais en tout cas pour répondre à la question, les travailleurs sont de moins en moins protégés dans le monde, mais il y a des initiatives, on va retenir cela pour améliorer la situation, et notamment concernant ces travailleurs qui seront 43 millions pour travailler pour les plateformes numériques dans l'Union européenne. Merci beaucoup à vous trois, Caroline Diard, Emmanuel Lavignac et Martin Denis.
Merci.
RFI. Merci. Et RFI se poursuit dans quelques instants, le grand journal du soir, et puis 30 minutes plus tard ce sera Afrique Soir, la première édition, et on va évidemment regarder le programme avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain. On va parler du Kenya où les violences policières sont de nouveau pointées du doigt. Après la mort d'un jeune homme dans les locaux de la police, les médecins légistes qui ont autopsié le corps démentent la version officielle de son décès. On vous racontera tout cela dans un peu plus d'une demi-heure. Au Togo, une cinquantaine de personnes ont été libérées selon les autorités. Elles avaient été arrêtées lors des manifestations contre le pouvoir jeudi et vendredi à Lomé, mais d'autres sont encore en garde à vue. Et puis le sommet de l'ONU sur les océans, comment protéger 30% des océans d'ici 2030? La Tanzanie vient d'annoncer son intention de créer deux nouvelles aires protégées autour de l'île très touristique de Pemba, une zone qui abrite des coraux et des mangroves. Ce sera notre dossier.
Ah bien, on sera à l'écoute. À tout à l'heure, Sylvie.